tous les mardis dès 11h30 sur RTL Équipe, Carrément Rugby, Clément Grèze.
Bonjour à tous et bienvenue sur RTL L'Équipe. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Carrément Rugby. Une heure pour décortiquer la très riche actualité ovalie de cette 20e semaine de l'année. Et comment ne pas revenir 6 jours après l'annonce sur la liste des 32 joueurs appelés par Marc Lièvremont pour disputer la Coupe du Monde néo-zélandaise. 32 joueurs, 6 blessés, 2 centres valides et quelques absents de marque dont on parle plus encore que les présents. Poitronneau, Josion et Chabal, bien sûr, assassinés sportivement, dit son président. Jackie Lorenzetti qui clame à qui veut l'entendre que oui, le numéro 8 du Racing méritait d'y être, malgré sa suspension suite à ses propos sur l'arbitrage. Mais l'actualité est aussi sur les terrains européens. D'abord, finale à venir de la Edge Cup et du Challenge. Si le Northampton Leinster servira de vitrine, c'est le Harlequins Stade français qui attirera notre attention. Car l'air de rien, Mats Guadini et ses ouailles peuvent boucler leur pire saison avec un trophée et une qualification en Edge Cup. Terrain français aussi, les barrages ont animé et égayé notre week-end. Clermont domine Biarritz pour rejoindre Toulouse à Marseille. Montpellier à Bacastre et s'offre le Racing. Bilan et perspective de cette folle fin de saison dans Carrément Rugby pendant une heure sur RTL L'Équipe.
Sur RTL L'Équipe, Carrément Rugby, Clément Grèze.
Une émission que vous pouvez réécouter cet après-midi, la rediffusion de Carrément Rugby, c'est tous les mardis de 15h30 à 16h30, juste avant le début de Carrément Foot, jusqu'à 18h, présenté, vous le savez, par Raphaël Sebaoun. Une émission à laquelle vous pouvez également participer. Pour cela, c'est très simple, il y a d'abord le groupe Facebook, mais aussi l'onglet Contactez-nous sur le www.rtl-l'équipe.fr, notre site internet où vous pouvez retrouver l'émission en podcast, comme d'ailleurs sur l'excellent site rugbyconnection.com d'un certain Ludovic Linet. Bonjour Ludo.
Salut Clément, bonjour à tous.
Ça va bien?
Ça va pas mal.
On s'est remis de cette liste de 50 joueurs à présenter à la Fédé pour présenter les petites fiches de tous les convoqués. Ça s'est fait
55 exactement.
55 exactement.
Ouais. Oui, tout à fait. Ouais.
Et pas non,
c'est bien
surprise.
Parce que. Si, deux en fait.
Deux
mais bon,
les ratés.
Ouais, non, parce qu'il y avait certains grands blessés que je ne pensais
Fabien
pas.
Fabien Barcella, Thomas Domingo.
Voilà, je pensais pas forcément qu'ils s'y trouveraient.
Ah, c'est la petite surprise.
Non, mais après, c'est sympa parce que ça permet de se replonger dans la vie et la carrière de tous les joueurs. Ça fait des petits rappels.
Ludovic Ninet avec nous pendant une heure dans ce Carrément Rugby, présent également dans ce studio 22 rue Bayard à Paris, le roi du tweet, monsieur Twitter, Pierre Salviac, bonjour.
Bonjour à tous et je viens avec des billes parce que je n'ai rien manqué de Rugby Connection, l'excellent site de Ludovic Ninet.
L'homme qui tweet plus vite que son ombre, Pierre Salviac, est en notre compagnie pendant une heure évidemment dans ce Carrément Rugby. Avec nous également en direct de Toulouse, Philippe Spangiro, le consultant RTL Équipe. Salut Philippe.
Encore.
Salut à tous.
Comment ça va?
Ça va bien.
Ça va bien, même si il y a eu ces quelques surprises hein, dans la liste, on le rappelle, et notamment à Toulouse, des joueurs que l'on attendait, que l'on plébiscitait tous ici dans Carrément Rugby, et toi tout particulièrement, et qu'on n'a pas vu, qu'on n'a même pas, dont on n'a pas entendu le nom prononcé par Marc Lièvremont à l'issue de cette conférence de presse la semaine dernière. On va y revenir, messieurs, on va commencer évidemment par cette liste, on ne peut pas faire autrement. On est à J+6, c'est vrai qu'on a eu le temps de digérer, d'analyser les raisons pour lesquelles Marc Lièvremont a fait ces choix-là. 32 hommes, on l'a dit, on s'attendait à une liste de 30. On savait qu'elle pouvait se développer, se tourner vers 33, 34, 35 joueurs. Finalement, 32 annoncés par Marc Lièvremont. Et moi, j'ai envie de dire, la première impression que j'ai eue, c'est vent de panique sur la Fédération française. Vent de panique sur Marc Lièvremont qui rappelle tous les blessés, tous. Fabien Barcella, Thomas Domingo, avec très peu d'espoir de les voir jouer, mais il les rappelle quand même, sait-on jamais. Énormément de blessés qui seront valides au moment de la Coupe du Monde, mais qui sont blessés au moment de l'annonce de la composition. Et puis quelques décisions fortes. J'ai l'impression que Marc Lièvremont a une fois de plus navigué à vue. Est-ce que c'est votre point de vue, ici dans ce studio ou à Toulouse, messieurs les participants de ce débat de Carrément Rugby? Pierre Salviac, lève le doigt.
Je vais commencer par me mettre un carton rouge.
Allez, carton rouge.
J'ai l'air d'un gros beauf, moi, qui ai milité pour la sélection de qui?
De Romain Tellet.
De Romain Tellet, qui s'est plumé, mais vautré avec trois échecs lors du match contre Castres, qui est pour partie, en tout cas, responsable de l'élimination. Et je suis d'autant plus surpris que ces stats étaient à 85%. Ben voilà, c'est comme quoi il n'y a jamais de vérité en sport. Et c'est tant mieux. Mais en tout cas, je suis le gros con de l'affaire. Donc,
mais
je fais
non,
profil
Pierrot.
Bas ce matin.
Mais non, Pierrot, faut pas dire ça. Sur la liste de Marc Lièvremont, on aura l'occasion évidemment de revenir sur les barrages et notamment sur le match entre Castres et Montpellier avec effectivement cette échelle de Romain Tellet, Robocop. On va revenir sur la liste, sur les quelques décisions phares. Est-ce que d'abord, vous êtes d'accord avec le bilan qu'on peut en tirer? Marc Lièvremont a fait appel à plusieurs joueurs blessés, comme si véritablement il n'avait pas d'autre solution.
Ouais, moi, je regarderais vraiment ces choses-là sous cet angle-là. Ça fait un peu l'énergie du désespoir, quoi. On prend en désespoir de cause des joueurs qui ont peut-être très bien servi la patrie un temps. Mais là, c'est un pari, moi, qui me paraît à la limite de l'insensé, finalement, parce que le passé nous a montré que c'était rarement un succès, ce type d'entreprise. Là, et encore, en 2003-2007, il ne s'agissait que d'un joueur. Là, il y en a quand même 6, je crois, qui sont blessés. Et certains, on sait très bien que même si, comme tu le disais, ils seront valides d'une certaine manière, quel degré de validité par rapport à la performance de haut niveau qu'ils seraient censés produire sur le terrain au moment de la Coupe du Monde. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup de paris. Et quel message ça envoie aux autres membres du groupe, aux joueurs non sélectionnés? Alors, effectivement, est-ce que ça veut dire que c'est le désert derrière ces joueurs-là dans le rugby français? Comment doivent se comporter les joueurs qui sont là en attendant? Puis peut-être qu'on leur dira le 20 août, t'es gentil, tu t'es bien préparé, maintenant tu dégages, l'autre est revenu. Voilà, j'ai un peu du mal à percevoir tout ça. Je pense que 5 ou 6 paris comme ça, c'est un peu beaucoup.
Énergie du désespoir, est-ce que c'est un constat validé par Philippe?
Eh ouais, énergie du désespoir, oui, quelque part. Mais c'est vrai que bon, moi, c'est l'incompréhension pour moi, parce que ce que je me dis, c'est qu'on a parlé de l'incapacité du staff de l'équipe de France à avoir des certitudes après 4 ans de travail. Et là, à quelques mois d'une échéance aussi importante, on se remet le mal de tête, on se remet à regarder la montre, à se mettre la pression avec des joueurs dont on sait franchement qu'ils ne seront pas disponibles, quoi. Alors j'ai cru comprendre visiblement que Marc Lévremont espérait le retour de Thomas Domingo, non pas pour les matchs de poule, qui savait que ce serait quasiment impossible, mais pour un quart de finale éventuel. Donc je comprends pas comment un joueur qui a pas joué un seul match officiel en compétition depuis 8 mois peut être capable de rivaliser avec une équipe qui sera en quart de finale d'une Coupe du Monde. Donc voilà, j'ai vraiment des grosses interrogations par rapport à ça. Et je me dis que c'est quelque part de la folie de la part du staff, avec déjà les soucis qu'ils ont à gérer avec les joueurs valides, de se mettre une pression supplémentaire qui sera déjà importante pour eux, avec autant de joueurs blessés. Voilà. Donc moi, c'est une grosse incompréhension pour moi.
Pierre.
La plupart des gens critiquent, et moi le premier d'ailleurs, ce groupe, avec les raisons qui ont été évoquées ici. Mais je vais quand même faire preuve de grande prudence, jurisprudence Romain Tellet, mais de grande prudence parce que j'ai pas oublié, ou en tout cas je n'oublie pas, que les plus grands exploits de l'équipe de France ont toujours été acquis pratiquement au moment où on n'attendait plus rien d'elle, où on n'attendait rien d'elle avant. Alors je vais citer par exemple la victoire à Dunedin contre les All Blacks de Nouvelle-Zélande à l'occasion d'une tournée il y a 2 ans.
Alors, je 2009.
Et puis je peux en citer d'autres, etc. comme ça. Donc je dis méfiance d'abord. Mais une fois que j'ai dit ça, moi, l'explication que je vais trouver, c'est que de toute façon, voyons la réalité en face, peut-être à une ou deux exceptions près, il n'y a pas de talent. Il n'y a pas de talent dans la France du rugby d'aujourd'hui. Des talents au sens où on imagine une équipe capable de gagner la Coupe du Monde. Donc il fait avec ce qu'il a aussi. Il fait avec ce qu'il a. Et s'il pense, et je ne suis pas tout à fait contre ça, que Domingo, par exemple, est indispensable à cette équipe de France, même s'il sait qu'il ne va pas pouvoir utiliser ses services, au moins pendant la première partie, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il le mette dans le groupe.
Non mais Pierre, quand on connaît, c'est une aberration ce que tu dis. Quand tu connais
un peu, je dis que
ça. Non mais quand tu connais un peu le sport.
Mais je dis que ça, je connais pas le sport.
Même le meilleur joueur du monde, qui a traversé le terrain les 4 années qui précèdent une blessure. Vincent Clerc, on l'avait vu quand même étincelant juste avant sa blessure au genou. Il a mis 2 ans à refaire un bon match.
Non mais attends.
Mais la question, Pierre, si je peux me permettre, la question est de savoir si Thomas Domingo, de retour après 8 mois sans jouer, sera
plus compétitif qu'un autre qu'on aurait pu prendre.
Qu'un autre qui, visiblement, ne fait pas l'unanimité. On pourrait déplacer la question, par exemple, au poste de talonneur. Est-ce qu'un William Servat, s'il avait été blessé, aurait été meilleur à son retour après 8 mois d'inactivité, meilleur qu'un Guillaume Guirado ou qu'un...
Ben même si je ne suis pas fervent supporter de Guillaume Guirado, je dis non. il aurait fallu prendre Guillaume Guirado dans un cas comme celui-là. Ça me paraît aberrant, en plus de la part de gens qui connaissent notre sport et qui connaissent les difficultés qu'on peut rencontrer pour revenir de blessures aussi graves pour retrouver un certain niveau. Ça me paraît invraisemblable. D'autant que si en 2007 on avait fait ce pari avec Sylvain Marconnet, qui s'était pas avéré payant, mais on l'avait fait avec Sylvain Marconnet, là on le fait avec 4 ou 5 joueurs. Dont on sait qu'il va y avoir une course contre la montre terrible pour tous et qu'il n'y en a pas un qui pourra postuler pour les matchs de poule.
Alors, moi j'aurais juste rajouté, et là je vais faire un peu de pub aux confrères de Midi Olympique qui ont fait une page assez intéressante là-dessus en interviewant un ancien médecin de l'équipe de France de foot qui explique que dans les cas de reprise un peu accélérée, forcée, ça entraîne forcément des déséquilibres dans le groupe parce que ça fait des joueurs qui sont à part. C'est une attention, comme disait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est très compliqué, il faut avoir tout un staff médical qui est dédié à ces gens-là. Et puis ensuite, pour le joueur en lui-même, accélérer une reprise comme ça, ça entraîne quasi inévitablement plus tard des problèmes musculaires ou une nouvelle blessure au même endroit. Donc de toute façon, c'est un pari qui est risqué aussi pour le joueur lui-même, pour son intégrité. Et moi je rejoins Philippe sur le fait que ces joueurs-là, s'ils arrivent à reprendre même quelques matchs de Coupe du Monde, les types de blessures qu'ils ont eues, et là on parle de Barcella avec son tendon d'Achille rompu puis retouché derrière,
justement
Domingo le genou et Rougerie la cheville, c'est quand même des blessures dont on ne sort pas indemne et on met du temps à retrouver son niveau qui était le sien avant la blessure.
Justement, le cas Fabien Barcella est presque encore plus pathologique chez Marc Lièvremont. C'est-à-dire qu'on va rappeler un joueur qui, là, n'a plus joué au rugby depuis plus d'un an, qui n'aura donc plus joué au rugby depuis plus d'un an et demi au moment du début de la Coupe du Monde, avec l'espoir que, sur son nom, Fabien Barcella s'impose comme une évidence, sur son passé, qu'il s'impose comme une évidence, au détriment des choix, c'est vrai peut-être plus contesté et contestable qu'il y a désormais au poste de pilier gauche. Mais c'est bien la preuve qu'on est en train d'ouvrir tous les tiroirs pour savoir ce qu'il y a au fond, Pierre Salviac.
Mais c'est ce que je dis. Moi, vous savez, je ne connais rien au rugby. Je n'ai que 50 ans dans ce milieu-là.
C'était 40 tout à l'heure.
Non, 50 ans d'expérience dans ce milieu-là, mais ce n'est pas suffisant, évidemment, parce que effectivement, tous ceux qui débarquent aujourd'hui savent tout et ceux qui étaient avant ne savent rien. Donc, je vais être très modeste dans mon appréciation. Donc, je vais m'appuyer uniquement sur mon vécu. Il y a une jurisprudence. Dans toutes les équipes, il y a une jurisprudence. Il y a des exemples de types qui sont venus du Diable Vauvert et qui, à la faveur d'un tournoi comme ça, ont fait un tournoi exceptionnel.
Alors, attends,
je finis, je vous ai écouté, les gars, je finis. En revanche, je suis d'accord avec l'analyse qui pourrait consister à dire, comme l'a dit Ludo, que c'est prendre des risques avec eux. Mais ils n'en ont rien à branler, on est dans le monde professionnel aujourd'hui. Ils n'en ont rien à branler, les cadres. Aujourd'hui, ils sont dans l'obligation de résultats dans le court terme. Lièvremont, après la Coupe du Monde, il sera peut-être plus sélectionneur de l'équipe de France. Sans doute plus. Donc, ce n'est pas leur problème, ça. Ils ne sont pas là pour gérer la carrière d'un international. Ils sont là pour gérer un résultat. On leur demande le meilleur résultat à un moment donné. Donc, tous les autres paramètres, qui sont des paramètres de sagesse, qui sont des paramètres d'intelligence, appelez-les comme vous voulez, qui sont sans doute des paramètres de connaissance, puisque moi j'en ai pas, et bien ça, ils n'en ont rien à foutre.
Est-ce que ça excuse quand même ce comportement de Marc Lièvremont de vouloir ainsi jouer avec la santé?
Tous les autres sélectionneurs font la même chose.
Non, mais après, c'est ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que c'était judicieux d'annoncer une liste maintenant avec ces joueurs-là dedans, sachant qu'on a encore très très peu de réponses sur tout ça. En fait, on dit ça, mais Lièvremont, il a quand même laissé la porte ouverte en disant que, et d'ailleurs le médecin dans le middle, le médecin de l'équipe de France va dans ce sens en disant qu'ils feront des points réguliers, que si ça se trouve, début juillet, certains seront déjà sortis de la
préparation. Parce que ce qui est très choquant dans cette liste de 32, c'est qu'il y en a au moins 3, Aurélien Rougerie, Fabien Barcella et Thomas Domingo, dont on sait plus ou moins qu'ils ne seront pas prêts au début de la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on va être obligé d'en prendre un 30e de toute façon, c'est-à-dire qu'on va rappeler à un moment un joueur qui ne fait pas partie de cette liste.
On a toujours appelé en cours de Coupe du Monde des joueurs et leur gars est arrivé en Coupe du Monde.
Non, mais c'est-à-dire qu'on n'a même pas 30 valides dans cette liste. C'est-à-dire qu'on peut très bien se retrouver avec des joueurs aujourd'hui à la Coupe du Monde qui auraient pu faire toute la préparation et qui ne la feront pas parce qu'on a préféré sélectionner des joueurs blessés.
Le Pays de Galles qui part avec Henson qui n'est pas blessé, mais c'est tout comme, n'est pas dans une meilleure situation que la France. Et puis, au-delà de ça, on ne se pose pas aussi la question de savoir comment se préparent les uns et les autres, comment se prépare tel ou tel pays. Alors, je vais faire le rabat-joie, au moins ça. Coupe du Monde 95, gagnée par l'Afrique du Sud. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, 4 des vainqueurs de la Coupe du Monde sont atteints de tumeurs au cerveau, dont un est déjà mort. Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que c'est par hasard? Donc, ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, on achève bien les chevaux. Ben oui, c'est l'enjeu qui fait ça. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire, mais je suis obligé de rappeler, puisqu'on est dans ce débat-là, est-ce qu'il faut faire appel à des joueurs qui sont sur un pied, qui sont pas en état de commencer la Coupe du Monde, etc.
Pas valide.
J'essaie de donner une image du contexte, d'expliquer pourquoi des entraîneurs ou des sélectionneurs ne sont pas raisonnables par rapport à tout ce que vous avez dit, et vous avez raison de le dire, mais c'est comme ça.
Et mais la question maintenant, c'est comment on va faire.
Prenons le cas, par exemple, du poste de pilier gauche. Donc, c'est avec Barcella et Domingo. Si c'est Jean-Baptiste Poulx qui part à la Coupe du Monde, sur les trois matchs de poule qui sont moins importants que celui contre la Nouvelle-Zélande, Jean-Baptiste Poulx, il n'y a aucune raison qu'il soit en difficulté monstrueuse contre le Japon, contre le Canada ou contre les Tonga.
Non, mais la Coupe du Monde, elle commence en quart. Il faut arrêter les conneries. Avant, c'est du pipeau.
Mais
c'est
une manière
de faire du buzz et de gagner du pognon.
Mais je suis bien d'accord avec toi. Mais bon, ça veut dire, est-ce qu'il faut porter une telle attention sur ce poste-là, par exemple, qui nécessite d'emmener en préparation deux joueurs qui ne sont pas valides et qui peut-être pourront jouer un bout de match en fin de compétition? Est-ce qu'on ne peut pas simplement se satisfaire de certains joueurs qui sont peut-être des doublures, mais qui, de toute façon, auront le niveau nécessaire? Tu rappelles très bien, toi le premier, que de toute façon, au niveau international, la mêlée, c'est pas non plus. Finalement, il y a que la France qui apporte attache une telle importance.
Mais c'est sa différence.
Oui, mais en même
temps. C'est le choix qu'elle a fait, culturel. Oui,
en même temps, c'est pas forcément que couronné de succès.
Ah
donc,
non, non,
donc en même temps, voilà, est-ce que c'était si important d'embarquer ces joueurs dans cette galère-là?
Si tu veux jouer contre nature, tu peux effectivement faire
d'autres choses. Il y a deux profils de blessés, Philippe Spanduro, dans la liste de Marc Lièvremont. Il y a les absents longue durée, Domingo, Barcella et Rougerie. Il y a ceux qui ne sont plus sur les terrains, comme Maxime Mermoz, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais dont on peut espérer un retour rapide. Il y a quand même différents profils. Une chose est sûre, c'est qu'il y en a trois sur lesquels il y a très gros doutes. C'est Domingo, Barcella et Rougerie.
Oui, oui, puis surtout, en fait, moi, pour parler de façon plus générale, je pense de la réflexion qu'ont eu les sélectionneurs. Alors, ils ont des idées arrêtées sur certains joueurs. Par exemple, je crois savoir que ils ont des doutes sur Clément Poitrono par rapport à sa capacité à répondre présent sur les gros matchs.
Ils n'ont pas tout à fait tort, non, Philippe?
Non, mais ils n'ont pas tout à fait tort, mais il y a deux solutions. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu choisis un mec sur l'image que tu as de lui sur ses sorties précédentes en équipe de France, ou est-ce que tu fais le constat de dire, voilà, quels sont les joueurs, les meilleurs joueurs en ce moment dans le top 14 qui sont les plus performants? Et je suis désolé, mais si tu veux répondre à cette question, et pour moi c'est la question à laquelle on doit répondre en priorité, ça me paraît aberrant de prendre un Marty ou un Mermoz ou un Estebanès à la place de Clément Poitrono avec ce qu'il montre au Stade Toulousain. C'est ça mon interrogation. Et la même, on peut l'avoir sur les piliers. C'est se dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des mecs, je pense notamment à Yannick Forestier, qui, quoi qu'il arrive, ne serait pas plus performant au moment où on en aura besoin?
Alors ça veut dire, moi je suis un peu d'accord avec toi, je fais en tout cas la même analyse et j'ai le même raisonnement. Sauf que, Lièvremont, il n'est pas tout seul à décider. Qui y a dans son groupe? Il y a Jean-Claude Scrella, DTN, c'est pas n'importe qui. Il y a Pelousse, c'est pas n'importe qui, recordman des sélections. Il y a Philippe Sella, c'est pas n'importe qui. Donc ça veut dire que tous ces mecs sont nazes.
Ah bah non, si, ça veut dire que nous on sait tout.
Nous, on sait tout et eux, ça veut rien.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que le final cut, c'est Lièvremont qui l'a, hein. La décision finale.
Ah oui, il faut forcément un arbitre.
Non, mais après, pour rebondir sur ce que dit Philippe, c'est vrai que l'argument de l'homme en forme qui prévaut dans certains cas pour Aymans ou la CAFIA, par exemple, ça ne vaut pas dans un autre sens. Et c'est vrai c'est vrai que Marty, aujourd'hui, on ne peut pas dire que Marty, il ait fait une belle fin de saison.
Il a fait une saison catastrophique, Marty. En plus, j'ai rien contre lui. Il a souvent répondu présent en équipe de France. Il n'a jamais traversé le terrain, mais je n'ai pas le souvenir que Marty soit déjà passé à travers une équipe de France, mais à la vue de la saison de Marty et de ses prestations sur les matchs importants, c'est une aberration d'amener Marty plutôt que Clément Poitrono.
D'autant qu'aujourd'hui, on a deux centres valides dans cette liste de 32 annoncée par Marc Lièvremont. Il s'agit justement de Marty et d'Estebanez. C'est-à-dire qu'on a quand même deux joueurs qui sont loin de faire l'unanimité et qui sont surtout
tous seuls à leur poste. Ça veut dire qu'on n'a pas de centre, surtout en France. C'est reconnaître qu'on n'a pas de centre.
Il faut savoir aussi que Mathieu Bastaro n'est pas dans la liste, que Florian Fritz n'est pas dans la liste, qu'Aurélien Rougerie est blessé, que Yannick Jozion n'est pas dans la liste.
En 2003, quand l'équipe d'Angleterre gagnait la Coupe du Monde, Sir Woodward,
Clive,
que je dise pas de bêtises, il a rappelé un ancêtre qui s'appelle Mike Catt et dont la sélection n'était pas prévisible deux mois avant. Donc, ce n'est pas la première fois, et ça arrivera d'autres fois, que les sélectionneurs, dans un certain contexte, font des choix qui nous interpellent. Et puis, à l'arrivée, on se dit, bah oui, mais ils sont là. Et tel joueur, il a fait la brille.
Pardon Pierre, mais je suis d'accord avec toi, mais si tu veux, ça mettait pas en péril l'équilibre complet du groupe. On a fait le pari avec un joueur, avec Mike Hatt. Là, tu te mets en danger sur une première ligne complète. Tu te mets en danger au centre parce qu'on n'a pas trop de certitude sur Maxime Mermoz par rapport à sa capacité à revenir. Tu te mets en danger de façon beaucoup plus importante, quoi.
Philippe, la liste définitive, c'est pas maintenant. Ça veut dire que s'ils se rendent compte pendant la période de stage que Barcella et Domingo sont pas en état de jouer la Coupe du Monde, il a encore le temps de les renvoyer chez eux, non ?
Oui, mais après 4 ans d'attente, on aura encore perdu quelques semaines de plus. Ça me paraît pas cohérent.
Barcella, il lui a donné du temps pour trouver un remplaçant. Hein. Ça fait quand même 2 ans qu'il joue pas.
Oui, mais la preuve en le sélectionnant, c'est qu'ils l'ont pas.
Ben peut-être parce qu'ils estiment effectivement qu'on est pauvre.
S'ils avaient un remplaçant, ils l'auraient pris d'office. Donc, ils tentent ce qu'ils peuvent tenter. Mais je me dis aujourd'hui, voilà, il y a une vraie course contre la montre qui s'est engagée. En 4 ans, on n'a eu aucune certitude, pas plus les joueurs que le staff, que le grand public. Et là, aujourd'hui, on a la possibilité enfin de poser des bases et de s'engager dans cette aventure avec pour avoir des certitudes sur la durée avec les matchs amicaux, etc. Et on va finir la préparation en ayant peut-être toujours aucune certitude.
Un mot, messieurs, sur les choix également du sélectionneur national, Marc-Olivier Vremond, parce qu'il y a les absents, on en a parlé un tout petit peu avec Clément Poitrenaud, Yannick Jozion, Sébastien Chabal, on aura l'occasion d'y revenir. Je voudrais qu'on parle des présents, notamment plusieurs noms ont été évoqués dans ce même studio à Paris, dans ce Carrément Rugby. On pensait notamment à Raphaël Lacafia, et on pensait tous que Raphaël Lacafia allait être victime de son manque d'expérience. Finalement, il fait partie des choix de Marc-Olivier Vremond.
Au détriment de Chouli, ça me surprend, mais bon.
On a plutôt envie d'applaudir.
Ouais, en plus, ça, c'est quand même un pari assez mesuré, disons. C'est le seul joueur qui est non expérimenté, qui sera encadré quand même sur une troisième ligne avec des joueurs qui, au contraire, ont énormément d'expérience.
Et le retour de Picamol aussi.
Le retour de Picamol derrière. Ça, j'avoue que ça m'a un peu plus surpris, parce que Picamol, il n'a pas découvert aujourd'hui son potentiel, et pour moi, il n'est pas non plus transfiguré par rapport à ces derniers mois, donc il aurait pu le prendre avant. Mais c'est vrai que Lacafia, il a fait forte impression. Moi, j'avoue qu'à revoir ces images, quand on le voit partir en mêlée, c'est un 8 qui met un gaz assez incroyable sur ses sorties de mêlée. C'est une ascension non-stop depuis le début de saison. Maintenant, c'est une forme d'aujourd'hui. Quelle sera la sienne aussi dans quelques mois Mais moi, je trouve que c'est un pari qui se tentait et qui est...
Moi, j'ai rien à redire sur le choix de Lacafia par rapport à sa saison. S'il y avait un pari à tenter, c'était celui-là. Il a montré de très belles choses. Il amène du dynamisme. Il est capable de franchir. Il joue debout. Il est capable de faire jouer après lui, de mettre les coéquipiers dans de très bonnes conditions de jeu derrière. Vraiment, pour moi, c'était... C'est amplement mérité, quoi.
D'ailleurs, sur les deuxième, troisième lignes, même sur l'ensemble de la charnière, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette liste de Marc-Olivier Vremond qui reste sur des fondamentaux très classiques.
Si, à propos de Lacafia, hormis le fait que moi, il ne m'a jamais impressionné, mais peut-être que je n'ai pas vu les bons matchs ou que visiblement, je n'y connais rien. Mais, donc, je vais reprendre...
Tu n'as certainement pas vu les bons matchs parce que sincèrement, il a fait des matchs où il a été quand même assez impressionnant.
Donc, je ne vais pas parler puisque je n'ai pas cette compétence, mais je vais faire parler... ça commence à me gonfler. Ça fait 40 ans que je suis dans ce milieu, ça fait 40 ans que j'entends ça, donc j'ai le droit aussi de temps en temps pousser un coup de gueule. Donc à chaque fois, j'ai la sagesse de me cacher derrière des compétents qui sont indiscutables. Et donc là, en l'occurrence, je vais prendre Fabien Galthié. Vous pouvez pas discuter la compétence au moins de Fabien Galthié, qui de par ses résultats peut-être même va postuler à l'entraînement de l'équipe de France. Fabien Galthié, dans sa chronique de l'équipe dernièrement, avait fait lui plutôt que Lacafia le choix de Chouli. Donc je tiens à dire que c'est pas évident pour tout le monde que Lacafia soit le premier choix. En tout cas, pour une compétence comme Galthié, le meilleur choix aurait été Chouli. Donc je ne me fais que le rapporteur de ça.
On parle de la troisième ligne, on parle forcément d'un absent, et je voudrais qu'on revienne très rapidement sur la polémique autour du cas Sébastien Chabal. On est déjà revenu ici dans Carrément Rugby sur les propos de Sébastien Chabal sur l'arbitrage. Je voudrais qu'on revienne quelques instants sur la suspension infligée au numéro 8 du Racing. 60 jours de suspension ou 30 jours plus des travaux d'intérêt général. Est-ce que vous trouvez que qu'il s'agit là d'une suspension excessive de la part des instances de la Ligue, d'un assassinat sportif, comme l'a annoncé, l'a expliqué Jackie Lorenzetti, le président du Racing, Ludovic.
Moi, je trouve que c'est une sanction sévère, mais à mon avis, à la valeur d'exemple, parce que si tous les joueurs, tout le monde peut se mettre à critiquer comme ça ouvertement l'arbitrage, on n'en a pas fini. Ça, c'est une certitude. Après, sur la sanction en elle-même, moi, je trouve l'idée des travaux d'intérêt général absolument géniale. Je trouve que c'est une super idée d'aller le faire suivre une formation d'arbitre dans le comité Île-de-France.
Non, il va aller pour signer les autographes de son bouquin.
Et ensuite, d'aller arbitrer des matchs de jeunes, s'il le fait vraiment. Voilà, moi, ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Après, le reste... Je pense que c'est la famille du rugby, on en a déjà parlé, elle n'aime pas non plus que tout soit mis sur la table grand public. Donc, ils auraient préféré régler ça en petit comité. Et c'est une façon aussi de le sanctionner par rapport à ça.
Pierre Salviat.
Si on le juge par rapport à la critique à froid dans un livre, tous les arbitres sont nuls, sans argument. On peut effectivement considérer que c'est sévère parce qu'effectivement, c'est rentré dans les mœurs maintenant de critiquer les arbitres. Moi, personnellement, je trouve que quand on est une icône, on doit servir d'exemple. Mais ce n'est pas là-dessus qu'il est jugé. En tout cas, ce n'est pas uniquement là-dessus. On a oublié, dans la présentation du dossier Chabal, et je ne sais pas pourquoi les médias l'ont oublié, on a oublié de faire remarquer que Chabal, à froid encore, deuxième partie du dossier,
dans une interview,
a déclaré dans son livre que sont suspects les clubs dont les présidents sont M. Revol et M. Blanco. Ces clubs sont suspects de bénéficier d'un arbitrage plutôt favorable. Ça veut dire que, à froid, pas à chaud, on est d'accord, dans un livre, Chabal, icône du rugby français, a suspecté deux clubs d'avoir un statut de privilégié sans pouvoir justifier une seule ligne de ses propos. Et s'il a été jugé, il a été jugé aussi là-dessus. Mais comme la presse ne présente le dossier que sur la partie attaque générale de l'arbitrage, effectivement, on trouve ça sévère. Si on présente le dossier sous cet angle-là, on peut considérer qu'il y a effectivement atteinte aux intérêts du rugby français et que c'est normal dans ces conditions qu'ils prennent 60, dont 30. Et moi, j'irai plus loin, c'est que dans les 30 de travaux d'intérêt général, je leur ai obligé à arbitrer des équipes de jeunes et de Castres et de Biarritz.
Est-ce que ça ferait pas un peu partie quand même d'un discours un peu ronflant qu'on peut entendre chez les observateurs du rugby, des soupçons de favoritisme comme ça à l'endroit de Biarritz et de Castres depuis plusieurs années?
Mais du temps de Ferras, c'est Agen qui avait ça. Mais attends, c'est pas là la question. C'est qu'un, c'est Chabal, comme tu disais, Ludo, c'est quand même l'icône, donc c'est valeur d'exemple. Deux, encore une fois, c'est pas une déclaration à chaud comme l'a fait Verbizier lors de sa première attaque contre les arbitres après le match Clermont contre Racing. C'est à froid dans un livre, merde!
Mais est-ce que ça fait pas partie d'un discours un peu bêtement répété, écrit
un discours de marketing pour vendre un bouquin.
Mais qui existe dans le milieu du rugby.
J'attends Philippe là-dessus.
Non, mais ça, c'est sûr qu'il existe. Pardon, Philippe, mais si, c'est sûr qu'il existe.
C'est un discours qui existe déjà.
Oui, oui. Moi, j'ai un de mes chroniqueurs, Jean-Pierre Elissal, qui, quand même, me dit que, voilà, il se passe quand même des choses sur l'arbitrage et que c'est vrai que sa façon de le dire était très maladroite, mais il avait quand même aussi abordé un sujet qui mérite d'être abordé.
Mais lequel dossier sur l'arbitrage ou le dossier sur.
Les deux.
Philippe Spandiero.
Moi, il y a plusieurs choses déjà par rapport à ces discussions qu'il peut y avoir par rapport au favoritisme de certaines équipes. Bon, moi, je suis très naïf par rapport à ça. Alors, je remarque encore ce week-end, hein, l'arbitrage vidéo dont on parlera peut-être, qui fait quand même basculer le match en défaveur de Biarritz.
Oui, il n'a pas été favorable à Biarritz.
Comment ?
Il n'a pas été favorable à Biarritz.
Il n'a pas été favorable à Biarritz. Comment ?
Contrairement à ce que dit Monsieur Chabal.
Voilà, donc voilà, c'est un exemple. Il y en a d'autres en remontant un peu plus loin. Donc je sais pas si j'ose espérer que des arbitres au moment de prendre des décisions importantes se mettent la pression par rapport aux gens qui sont à la tête de certains clubs. Je veux pas le croire. Que ça se dise dans le rugby, c'est vrai. Mais pour en revenir à ce qui nous intéresse et à Sébastien Chabal. Voilà, je pense qu'il s'est laissé griser par son statut et l'image qu'il avait à l'extérieur du monde du rugby. Et il a un peu oublié à un moment donné l'image qu'il avait dans le monde du rugby, qui est moins importante que celle qu'il a à l'extérieur. Et pour moi, il est sorti du cadre. Quoi. Voilà,
et clairement. Sur la suspension, rapidement, Philippe,
ben pour moi, elle est méritée. On ne s'attaque pas publiquement comme ça à des gens qui font beaucoup pour notre sport, que sont Pierre-Yves Revol, Serge Blanco. J'ai pas d'affinité rivalité particulière avec les uns ou avec les autres, mais je dis simplement que c'est très maladroit et que en aucun cas il a la légitimité pour faire des sorties pareilles.
Parce que le plus gros scandale moi que je connaisse, et j'étais plus ou moins complice, donc je devrais fermer ma gueule, mais le plus gros scandale, c'est quand même la finale gagnée par Castres contre Grenoble, entraîné par Fourou, parce que là je suis témoin que l'arbitrage était plus que discutable. D'abord, l'arbitre avait été choisi par M. Ferras en pleine guerre Ferras-Fourou, et que le comportement de cet arbitre à ce jour-là, les images le prouvent, et autrement plus contestable que le comportement général des arbitres. Et là, ce jour-là, effectivement, il y a eu scandale, et si on était capable de passer sur ce scandale dans le rugby français, on ne va pas faire un scandale de choses qui sont dites comme ça à la volée, sans argument, pour le justifier.
Pierre Salviat, Ludovic Ninet, Philippe Spandiero, amis et débatteurs de Carrément Rugby pendant encore une demi-heure. On se retrouve juste après la pause pour évoquer notamment les matchs de barrage du top 14 et puis ce week-end européen qui nous attend avec une finale de Edge Cup et de Challenge.
Sur RTL L'Équipe, c'est Carrément Rugby jusqu'à midi et demi. RTL L'Équipe, Carrément Rugby, Clément Grèze.
Deuxième demi-heure de Carrément Rugby, on va s'éloigner un petit peu de l'extra-sportif pour se plonger dans les terrains, et l'actualité elle est riche évidemment avec les quarts de finale du championnat de France de top 14, plusieurs rencontres et notamment deux chocs, Montpellier qui s'impose à Castres 18-17, la première défaite à domicile cette saison des Castrés au plus mauvais moment. Ce sont donc les hommes de Fabien Galthié et d'Éric Béchu qui rencontreront le Racing en demi-finale à Marseille. L'autre demi, elle opposera Toulouse, on le savait, à Clermont qui a dominé le Biarritz Olympique à l'issue d'un match fou et surtout peut-être une décision d'arbitrage contestée. En tout cas, on y reviendra évidemment avec le débat donc sur l'arbitrage vidéo qui ne règle pas tout. Ça fera plaisir à nos amis du football. Et puis on se penchera également sur un week-end de sport. C'est ce week-end à suivre en direct sur notre antenne, la finale du Challenge européen vendredi soir, les Harlequins contre le Stade français, et puis finale de la Edge Cup, la vitrine du rugby européen, Northampton face au Leinster, les deux clubs qui ont dominé nos clubs français en demi-finale et qui se retrouvent donc pour monter sur le toit de l'Europe. C'est Carrément Rugby que vous écoutez pendant encore une demi-heure.
Tous les mardis dès 11h30, c'est Carrément Rugby sur RTL L'Équipe.
Et avec vous dans Carrément Rugby aujourd'hui, Pierre Salviac, Ludovic Ninet de RugbyConnection.club et Philippe Spandiero.
Toujours là mon
Fifi ? Toujours présent évidemment pour les débats de Carrément
non,
Rugby.
Non,
il est là. Oui, si, il est évidemment
mon Fifi,
là.
T'es là ?
Oui, tu l'as, bien
ah,
sûr.
Bon. Évidemment qu'il est là. Il ah, est bon. Toujours présent.
Depuis, je suis en ligne,
Depuis
j'ai
trois saisons, Philippe Spandiero a raté un Carrément Rugby.
Il s'échappe des fois. Il s'échappe, il va loin.
Ah, oui, j'ai loupé un Carrément Rugby parce que j'étais
en Argentine, tu nous as invités, je te remercie, ça nous a fait plaisir.
J'étais en Argentine pour préparer la tournée
des Barbarians.
Merci
Ludo et moi, on te remercie. Hein.
Avec plein de Français d'ailleurs dans
l'équipe
de Barbarians.
Oui, bien sûr, c'est... Si on a l'occasion d'en parler deux minutes, ça peut être bien.
Il n'y a pas une équipe de Barbarians journalistes, Fifi?
Et écoute, non, mais tu serais la priorité. Tu serais la priorité de recrutement.
Ça lui fait la merde en peu de temps.
En sélectionneur, Ludovic Ninet. Il jouerait où, Ludovic Ninet?
Ah bah moi, je jouerais comme d'habitude, 6 ou 7.
6 ou 7, voilà.
Bon, il laissera tomber, quoi.
Hein, ce serait bien. Mais si on va revenir sur les terrains, tiens, justement, puisqu'on y est, on va se pencher maintenant qu'on a parlé de la liste. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, d'ailleurs, messieurs, sur cette liste, quelque chose qui vous a choqué, vous a interpellé. A priori, personne ne veut prendre la parole, donc on va se pencher sur les terrains. Non, mais tu m'écoutes pas, donc c'est trop tard. Comme d'habitude. On va revenir sur les terrains, messieurs, et je voudrais qu'on parle des rencontres de ce week-end. Montpellier, donc, qui s'est imposé à Castres 18-17, et Clermont qui a battu Biarritz 27-17. Alors, on va prendre. Pourquoi pas dans l'ordre... Non pas dans l'ordre chronologique. On va parler du Racing, puisqu'on parlait de Chabal suspendu, qui va manquer, a priori, les demi-finales et la finale du top 14. Est-ce un coup dur pour le Racing au moment d'affronter Montpellier, une équipe qui réussit plutôt bien face au ciel et blanc?
Sincèrement, moi, je ne suis pas certain. Dans le sens où...
Ah, c'est bien au Racing.
C'est pas un joueur qui fait une équipe. T'as vu, Telé ?
Il fait du bien. Non, bien sûr qu'il fait du bien quand il rentre dans son rôle d'impact player, où d'ailleurs, je crois que Pierre Bermizier l'a fait jouer un peu dans ce rôle-là ces derniers temps. Maintenant, l'équipe du Racing, voilà, en troisième ligne, ils sont équipés. Ils ont un Jacques Cronieux qui fait une saison aussi assez énorme.
Très bon joueur.
Voilà, je pense pas que ce soit catastrophique pour le Racing de ne pas avoir Chabal.
Bon, c'est pas catastrophique. Montpellier, en tout cas, face à eux, et cette formation montpelliéraine qui avait réussi son meilleur match de la saison, dit le site Fabien Galthié. C'était à l'occasion de la deuxième journée du championnat face au Racing. Pierre Salviat lève le doigt.
Est-ce qu'on peut faire remarquer que
on peut.
Quand Montpellier à Ouédraogo c'est pas le même Montpellier que quand il n'a pas Ouédraogo. Moi, j'observe que la partie délicate de Montpellier en fin de saison dans le top 14 correspond à peu près à l'absence de Ouédraogo sur blessure. Je pense que ce joueur-là est indispensable à l'équipe de Montpellier. Techniquement, je ne sais pas l'expliquer, évidemment, mais je le ressens comme ça.
Ouais, moi, j'en ai parlé un peu avec lui. C'est évidemment quelque chose qui le gêne un peu qu'on dise ça.
On rappelle qu'il est régulièrement chroniqueur sur BigConnection.com.
Ouais. D'ailleurs, on a fait une assez sympa hier là, sur les deux semaines écoulées. Et c'est quelqu'un qui se livre pas forcément, mais là c'était plutôt
c'était
réussi.
Bien. Ouais.
Voilà.
C'était bien.
Non, après voilà, c'est quelqu'un qui est assez gêné quand on évoque ça. Et en fait, lui,
la seule
explication qu'il s'est donnée, je pense que elle est assez juste, c'est que en fait, quand il est sur le terrain, en dehors d'être un leader, je pense, de jeu et d'état d'esprit, c'est un très bon soldat. Voilà. Et c'est un mec qui lâche rien. Et je pense que
comme toute son équipe,
son équipe. Mais voilà, j'imagine qu'il s'est entraîné. D'ailleurs, un peu comme du sautoir, c'est le faire en équipe de France. Voilà. Il s'est entraîné les autres dans ce sillage-là.
Fulgence Ouédraogo, l'homme clé des Montpelliérains, Philippe ?
Un homme clé, un homme très important, oui.
Ah, mais, je suis content que tu sois d'accord avec moi.
On n'a qu'à voir l'importance que lui accorde Fabien Galthié, qui est quand même quelqu'un qui connaît bien notre sport, l'importance qu'il lui accorde sur le terrain et en dehors, parce qu'il y a l'impact aussi psychologique, j'en parle souvent, mais j'allais dire le baromètre du vestiaire que peut être Fulgence Ouédraogo, donc c'est sûr qu'il a ramené de la sérénité, ramené un message à l'équipe de Montpellier. En plus, pour revenir au match, ça s'est plutôt bien goupillé pour eux. Ils n'ont pas été quand même archi dominateurs sur ce match, mais ils ont été réalistes avec le passage à vide de Romain Telet. Et puis voilà, ça a souri. Donc c'est sûr que ça donne raison au retour de Fulgence Ouédraogo et qu'on voit que Montpellier est plus performant avec lui que sans.
Le rugby est parfois un sport injuste, messieurs, mais est-ce que sur cette rencontre face à Castres, le meilleur l'a emporté ?
Oui, moi je l'ai ressenti comme ça. J'ai vu Castres dans l'impossibilité de franchir alors qu'ils étaient si près. J'ai vu une défense héroïque de Montpellier. J'ai vu le buteur exceptionnel, 85% de réussite généralement, plus de 52% des points marqués par Montpellier. Se viander parce que ça arrive malheureusement à un buteur de louper son match alors que celui d'en face a enquillé. Moi, je suis pas été choqué par l'exploit. Ce qui m'a intéressé en plus, c'est de faire la démonstration, parce que je croyais l'inverse, là aussi je me suis planté, que jouer à Pierre-Antoine, un match aussi important que ça, je ne sais pas si vous connaissez Pierre-Antoine, mais tu as le public sur le dos, hein, c'était un avantage considérable pour Castres. Et ben, ça m'a rappelé à une chose très simple, c'est qu'un match de rugby n'est jamais joué tant que le coup de sifflet final n'a pas été donné. Et c'est pas mal que de temps en temps, ça nous le rappelle.
Montpellier méritait sa victoire, Ludovic ?
Bon, moi, j'avoue que je n'ai pas vu ce match. Hein. On m'a tenu au courant par texto pendant toute la partie.
Je te tweeterai la prochaine fois.
J'ai pas vu le match. Mais de ce que j'en ai lu derrière, visiblement, Montpellier a été meilleur dans l'occupation et a su donc, emmener le jeu dans la partie de terrain castraise. Et donc les castrais, quand ils ont fait des fautes, ils étaient sous la menace du pied de Bustos Moyanès, ce qui a été moins le cas pour les Montpelliérains, donc qui ont offert moins de possibilités
quand
de pénalité.
Quand on voit l'effectif Montpellierain, on se dit, Philippe Spandiro, qu'il y a vraiment une patte des entraîneurs, à la fois Fabien Galthié et bien sûr Éric Béchut, qu'on a tendance à oublier, évidemment, dans le duo qu'ils forment avec l'ancien numéro 9 de l'équipe de France. On sent véritablement qu'il y a désormais des guides à cette équipe qui a finalement assez peu bougé par rapport à son passé.
Ah oui, moi je ressens quand même un apport énorme en termes de stratégie amenée par Fabien Galthié et Éric Béchut cette année.
Ah oui, ne dissocie pas Béchut, hein, Philippe, quand même.
Non, je ne dissocie pas Béchut du tout, mais j'en ai parlé avec des joueurs qui eux-mêmes me disent qu'ils sont très très surpris, des joueurs qui ont connu le haut niveau avant, qui ont connu d'autres entraîneurs. De l'apport de quelqu'un comme Fabien Galthié. Alors je mets pas de côté Éric Béchut, mais c'est vrai que c'est quand même Fabien Galthié qui a réfléchi à la stratégie de jeu à proposer au club. Bon, bien sûr en collaboration avec Éric Béchut, mais aujourd'hui clairement peu d'entraîneurs seraient capables de faire ce que fait Fabien Galthié avec un effectif comme celui de Montpellier.
Avec aussi ce qui plaide en faveur de Galthié, un titre avec le Stade français, cette performance avec Montpellier, les 40 points marqués par l'Argentine sur l'équipe de France il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça commence à faire un cursus intéressant dans la perspective d'un sélectionneur de l'équipe de France.
Ludovic.
Non, je voulais ajouter par rapport à Éric Béchut et Galthié en parle très bien. sur l'apport aussi, la complémentarité des deux. Galtier qui avait connu beaucoup de réussite et le haut niveau, et Béchu qui avait connu avec galère. Albi pas mal de galères.
Enfin, on faisait monter quand même à chaque fois.
De Pro D2 à Top 14. Mais disons, en Top 14, il n'avait jamais eu la vie facile. Ah oui, et c'est vrai que les deux, leur complémentarité a permis d'ajuster le discours en fonction de l'état de forme et de l'état d'esprit de l'équipe à certains moments. C'est-à-dire que dernièrement, ils avaient connu une phase un peu plus difficile en février-mars. Et c'est vrai que le fait qu'ils soient eux deux avec leurs connaissances différentes, ça a permis justement de relancer le groupe.
Alors malgré cette force montpelliéraine, on a quand même tendance, messieurs, à penser, mais vous allez peut-être me dire que ce n'est pas du tout votre cas, que c'est quand même la voie royale qui est tracée pour le Racing Métro vers les finales.
Ah bah non. Attends, je veux dire, à partir du moment où Montpellier a réussi l'exploit d'aller éliminer Castres, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tu peux plus considérer comme Montpellier comme un club de seconde catégorie. Je veux bien croire que le rugby français traditionnellement fait un exploit et derrière se plante. Mais là, en l'occurrence, moi, je serais à la place du Racing, je me ferais du souci. Parce que si le Racing a terminé deuxième, il a aussi raté des matchs. Au niveau, alors là, je m'adresse aux techniciens, donc je pose la question. Au niveau
précaution
technique,
d'usage,
au niveau technique, je suis pas convaincu que le Racing soit meilleur que ce que nous a montré Montpellier cette saison.
Philippe.
Non, moi, je suis pas vraiment d'accord avec Pierre. Après, bien sûr, sur un match, on sait ce qui peut se passer. On l'a vu, on donnait Montpellier, a priori, perdant ou pas favorable, en tout cas. Ils ont montré qu'ils avaient été capables de renverser le cours du match. Mais je crois qu'il y a quand même un gros écart entre ces deux équipes. Notamment devant, et je pense que ils vont beaucoup souffrir devant contre le Metro Racing. Ils s'en sont plutôt bien sortis en mêlée ce week-end, alors qu'ils ont quand même été vraiment dominés et pris en mêlée. Ils s'en sont bien sortis par rapport à ce qu'ils ont subi. Je pense qu'ils vont subir beaucoup plus devant contre le Racing le week-end prochain.
Et tu crois que le pack de Castres est moins puissant que celui du Racing?
Oui, je crois.
Ah bon?
Ouais. Oui, je crois que le pack de Castres est un peu moins puissant que celui du Racing, et je crois que le Racing est quand même un ton au-dessus de Castres cette année. Et bon, là, sur le terrain neutre, avec la dynamique autour du Metro Racing, l'ambition, l'attente autour de ça, je vois vraiment mal Montpellier recréer l'exploit une deuxième fois.
Un terrain qui ne sera pas si neutre que ça.
Moi, c'est ça ce que j'allais dire. Déjà, sur le terrain, à mon avis, il y aura beaucoup plus de Montpellierains que de supporters du Racing.
T'as vu ce qui s'est
passé,
Marseille. Ludo, là ?
Non.
Le Racing vient de renvoyer un maximum de places à Marseille, ce qui tendrait à prouver que le choix de Marseille pour les deux matchs, c'est peut-être pas nécessairement le bon choix.
Ouais. Et après, moi, je voulais ajouter que le Racing n'aura pas joué pendant 3 semaines avant ce match, au contraire de Montpellier, qui aura quand même eu juste un week-end de coupure, là, donc ça peut jouer aussi peut-être en défaveur du Racing, ou au contraire, peut-être en faveur, parce qu'ils auront beaucoup plus de jus.
Voilà. Alors, l'autre demi-finale, elle opposera Toulouse à Clermont. Clermont qui a battu Biarritz, c'était vendredi soir. Le score 27 à 17. Les Biarrots n'ont pas marqué le moindre point en deuxième période. Les Clermontois qui ont connu un début de match catastrophique, avec des Biarrots très efficaces en contre, notamment. Finalement, Clermont s'est imposé avec un tournant du match. On peut peut-être revenir sur cette action, puis on reviendra évidemment sur l'ensemble de la rencontre et la victoire clermontoise, mais un essai accordé après 4 à 5 minutes d'arbitrage vidéo, un essai qui pose question, car finalement la vidéo ne permet pas de se faire un avis
tranché
sur la question de la validité de cet essai. Est-ce qu'on n'a pas atteint là les limites de l'arbitrage vidéo?
À quoi sert la vidéo? C'est enlever les doutes. Et s'il y a doute à la fin de 4 minutes 30 de contrôle vidéo, c'est la preuve que la vidéo, derrière la vidéo, il y a un homme et que l'erreur est humaine.
Non, mais donc, la vidéo, est-ce qu'elle est là pour forcément apporter une réponse positive ou négative? C'est ça la vraie question.
Et là, en l'occurrence, quand elle n'en apporte pas, que faut-il faire?
Dans ce cas-là, moi, je ne sais pas. Mais il aurait fallu dire, on ne sait pas. Donc, si on ne sait pas, dans le doute, l'arbitre, s'il n'y avait pas eu de vidéo qu'il n'avait pas su, il aurait dit, mêlée à 5 ou renvoie au 22.
Bon, peut-être. Et l'autre danger de la vidéo, parce qu'on en abuse un peu trop, je trouve, dans le rugby, c'est que le juge de touche, qui normalement aurait dû être bien placé sur cette action, et il ne sert plus à rien, quoi.
Mais j'ai l'impression, moi, qu'il disait, pendant le direct, qu'il disait justement qu'il y avait essai. Moi, c'est ce que j'ai cru voir.
À vue de nez, c'est
donc
ce qu'il
avait l'air
de... Donc ça
veut dire qu'on n'écoute pas le juge de touche et on préfère écouter la vidéo?
C'est parce que je pense qu'on a trop peur, justement, de l'erreur humaine, et donc qu'on a recours à cette...
Mais il est mieux placé, parfois, le juge de touche, que la caméra que l'angle... Philippe, non?
Abus de l'utilisation de la vidéo, faut-il absolument avoir une réponse après une séance vidéo, Philippe Spandliero?
Non, je crois pas qu'il faille forcément avoir une réponse après une séance la demande de la vidéo. Là, il y avait pas de réponse à donner sur TC. Alors, il y avait pas de réponse à donner quoi qu'il arrive, mais encore plus à ce moment du match, en sachant très clairement que c'était le tournant du match. À la 20e minute, il y aurait peut-être eu un peu moins de pression, ça aurait été différent. Mais là, à la 65e ou à la 70e, prendre une décision comme celle-là,
Donc c'est grave comme décision.
pour moi, c'est grave. Ça aurait été beaucoup moins grave si l'arbitre de champ avait écouté son arbitre de touche. Qui lui avait dit il y a essai. Pour une fois, ça aurait récompensé les arbitres de touche qui se mouillent en général jamais. Là, pour une fois qu'il y en avait un qui disait, qui donnait son avis, ça aurait été bien de le récompenser, puisqu'à la sortie, on est allé dans son sens. Donc, non, pour moi, voilà, c'est quand même
On est d'accord.
une grosse faute. Je pense que s'il n'y avait pas eu la polémique autour de Sébastien Chabal, peut-être que Serge Blanco serait monté au créneau.
C'est un complot pour donner tort à Chabal, me dit à Twitter.
Et on l'aurait compris, parce que franchement, c'est quand même rageant, même si sur l'ensemble du match, en deuxième mi-temps, les Biarrois ont été quand même particulièrement dominés. Ils n'ont pas vu le ballon pendant 20 minutes, ils ont subi, ils ont été très très courageux en défense, mais ils ont quand même laissé du jus parce qu'ils ont eu très peu le ballon.
Mais
Mais
voilà,
bon.
ça n'enlève rien quand même à la victoire des Clermontois. Il ne s'agit.
Non, voilà, je reviens là-dessus parce qu'à la sortie, il n'y a pas de hold-up avec la victoire de Clermont. Mais malgré tout,
Oui,
on
enfin.
peut comprendre la frustration des Biarrots parce que sur cette décision qui fait quand même basculer le match, il y a quand même de gros gros doutes
Oui, mais et
par
Philippe,
rapport à la vidéo.
le problème, c'est que ça fait quand même deux fois à ce stade de la compétition que Clermont est bien arbitré.
L'année dernière, c'était face au Racing Métro. Une pénalité est-elle passée?
Mais moi, je ne
Décision.
suspecte. Non, je dis ça par provocation, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit suspecter. On peut faire remarquer, point barre.
Moi, j'avoue qu'à vitesse réelle, et dans le mouvement et dans le direct, moi, j'avais le sentiment que l'essai y était. Hein.
Mais d'ailleurs, c'était le même sentiment de l'arbitre de touche, c'était le sentiment que l'on a en regardant la vidéo, même si effectivement on n'arrive pas à avoir une certitude. Il y a quand même un faisceau de présomptions qui nous permettent de dire qu'a priori il y a essai. Le a priori est pas gommable et c'est bien malheureusement tout le problème de la question de la vidéo et le problème des Biarrots aujourd'hui. Néanmoins, on est tous d'accord
Clermont
autour
est en
de cette table
demi-finale.
pour dire que Clermont méritait, à la vue de cette rencontre, sa qualification pour les demi-finales.
Moi, ils m'ont vraiment impressionné en deuxième mi-temps. Même à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'ils n'utilisent pas le coup de pied par-dessus pour
Ah,
faire.
le fameux coup de pied par-dessus.
Mais c'est vrai, attends. Ça a
C'est
duré
le
une,
rugby
deux,
football.
trois, quatre, cinq minutes
Ah
où ils allaient s'empaler sur cette défense qui était très agressive, très, très, très à la limite du hors-jeu, très souvent quand même. Et puis, mais malgré tout, moi, ils m'ont même rappelé les All Blacks en 2007 qui remontaient
Ouf.
Le terrain contre les Français par ces pink-and-go successifs. Et je veux dire, ils ont quand même fait preuve d'une conservation du ballon assez exceptionnelle,
une
d'une puissance au contact,
propreté
parce que quand même
puissance.
Ils avançaient à chaque fois. Voilà, ça c'était quand même aussi. C'est une forme de rugby qui n'est pas forcément très spectaculaire, mais là j'avoue que c'était beau à voir.
Mais dans la
Et
première partie
puis...
que tu dénonces, ça m'a surtout rappelé Brive en finale de Coupe d'Europe contre Bath, avec des pick and go qu'on ne finissait pas pour arriver à se faire éliminer.
Ouais, c'est vrai.
Philippe Spanguero.
Puis le match du lendemain a vraiment souffert la comparaison
Ah oui.
en termes
Oui.
d'intensité de
Oui.
jeu, d'impact. Il y avait vraiment un fossé entre ces deux rencontres, mais bon, moi j'ai été très impressionné par les Clermontois, notamment en deuxième mi-temps, et par le courage défensif
Ouais.
des Biarrots qui ont encaissé des séquences avec 18-20 ans de jeu sans se mettre à la faute. Et c'est quand même le signe aussi d'une grande équipe.
Moi, j'ai été aussi impressionné par l'ambiance. J'ai l'impression que les vuvuzelas étaient revenus sur le terrain.
Il y avait beaucoup
Il y
de
avait
bruit,
une sacrée
il y avait une
ambiance.
ambiance absolument
Ah
incroyable
oui, mais ça
dans
compte
ce
aussi,
stade.
hein.
C'est la preuve en tout cas que Clermont ne meurt pas, ne meurt jamais malgré une saison difficile. Les Clermontois sont à nouveau au rendez-vous des demi-finales face à Toulouse. Une rencontre que l'on va attendre tout particulièrement parce que, évidemment, ça sonne comme une finale entre le champion d'Europe en titre et le champion de France en titre. Rappelons-le, champion d'Europe plus pour très longtemps. On y reviendra dans les quelques dernières minutes de cette émission. Toulouse-Clermont, je vais rapidement vous demander de vous projeter. Une chose est sûre pour les Clermontois, ces 2 semaines vont faire du bien pour récupérer car il y a eu une débauche d'énergie dans cette rencontre face à Biarritz qui a été assez impressionnante. En tout cas, on a bien compris que physiquement, ils étaient prêts. Après les Clermontois, et que c'était dans ce rugby-là qu'ils allaient tenter de prendre les Toulousains.
Dans ce rugby-là, pas forcément, parce que c'est dans ce rugby-là, face à la défense qu'a opposé Biarritz. Après, peut-être que s'il y avait eu plus d'espace, ils auraient joué un autre rugby. Mais là, il faut se prononcer.
On sent qu'ils ont des armes de puissance quand même. Et
ouais,
de...
c'est vrai, c'est vrai. Tu veux un pronostic en fait sur le match?
Non, je veux pas un pronostic, je veux une analyse des clés de la rencontre. Ouais.
Ouais.
On est bien d'accord là-dessus. Philippe Spanguero.
Une analyse, alors bon là je vais perdre un peu mon objectivité, Je vais dire que sur l'ensemble de la saison, Toulouse est un peu au-dessus. On a vu la capacité de Toulouse à hisser son niveau de jeu, notamment contre le Leinster. Parce qu'on a vu une très très belle demi-finale de Coupe d'Europe où le Leinster a quand même globalement un peu dominé le match. Mais on a vu des Toulousains qui ont quand même répondu présent, notamment dans le défi physique. Donc je dirais que sur la saison, je vois Toulouse quand même un peu au-dessus des Clermontois, mais après sur un match et particulièrement contre Clermont, les Toulousains vont avoir du mal et surtout que eux, contrairement aux Clermontois, ont eu 3 semaines sans match de haut niveau. Et ça change quand même beaucoup de choses dans la préparation. Les Toulousains n'ont pas l'habitude d'aborder des matchs de ce niveau-là avec autant de temps de préparation. Alors je pense que 3 semaines sans jouer de match de ce niveau-là, ça va jouer, notamment dans l'entame de match où les Toulousains vont peut-être mettre un peu plus de temps que les Clermontois à se mettre dans le rythme.
Ludovic.
Moi, je dirais que je me lance, hein, pour une fois, un petit pronostic. Non, je pense qu'au niveau des deux paquets d'avance, ça pourrait s'équilibrer. J'ai peur que pour Clermont, l'absence de Rougerie derrière, remplacée par un Joubert qui n'est pas forcément le Joubert qu'on a pu connaître avant, ce soit quand même un gros désavantage pour Clermont. Voilà.
Pierre.
Oula, 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 je vais pas me rentrer là-dedans. Moi. Attends, c'est trop compliqué pour moi. Je vais regarder sagement et me dire que au stade des demi-finales, c'est 50-50 et puis on verra. Oh,
c'est une magnifique analyse. Merci.
Bah non, mais bah, attends,
les
analyses à la con que font les journalistes avant les matchs. Déjà, moi, je suis un mauvais analyste et en plus, je trouve que ça sert à rien parce que heureusement. Il y a la glorieuse incertitude du sport.
Alors justement, mardi prochain, on reviendra évidemment sur ces deux rencontres, Toulouse face à Clermont et Racine face à Montpellier. On reviendra aussi sur le week-end que l'on aura vécu.
Ah.
Week-end de Coupe d'Europe avec la H-Cup et le Challenge européen. Et forcément, ce qui va nous intéresser un tout petit peu plus, nous Français, c'est le sort réservé au Stade Français. Le Stade Français qui va jouer une finale européenne face aux Harlequins. Harlequins tombeur du Munster en demi-finale sur la pelouse du Munster. Une performance de choix qui situe le niveau de cette équipe. Face à elle, le Stade Français qui réussit là la pire saison de son histoire moderne, de son histoire Mats Guazzini, de son histoire du 21e siècle. Le Stade Français qui a terminé au 11e rang en top 14 et qui pourtant est en passe, pourquoi pas, de se qualifier la saison prochaine pour une compétition européenne, la H Cup, et aussi et surtout de remporter un trophée. Alors la question, elle est simple, messieurs, face à la puissance des Harlequins, le Stade Français vous offre-t-il la possibilité de croire qu'il a des chances de l'emporter?
Sur le papier, oui. Moi, je dis oui parce que on l'a toujours répété cette saison, ils ont quand même un effectif de qualité. Qui a priori n'a rien à envier à l'effectif des Harlequins. Maintenant, au vu de ce qu'ils ont fourni comme prestation tout au long de la saison, on peut en douter. Est-ce que les bonnes nouvelles annoncées dernièrement sur la meilleure santé financière à venir du club, ça va un peu les rebooster, leur faire croire en leur chance? Moi, je pense que la clé, elle est là. C'est ce que je dirais.
Philippe Sonnero.
Oui, l'analyse est parfaite. Non, c'est sur le papier, il y a une très belle équipe du Stade Français. Il y a peut-être quand même, de l'autre côté, un peu de démobilisation. Il y a des joueurs cadres qui seront plus au club la saison prochaine. Donc, je pense qu'ils vont quand même avoir envie et ils vont avoir à cœur de rendre au Stade Français comme ils peuvent ce que le Stade Français leur a apporté. Donc, il va y avoir un facteur psychologique important, au-delà du fait que ce soit une finale de Coupe d'Europe. Voilà. Après, maintenant, s'ils répondent présents dans le défi physique, parce que les joueurs derrière le Queens, même si c'est une équipe plutôt joueuse par rapport à ce qui se fait ailleurs en Angleterre, il va falloir surtout répondre dans le défi physique pour les Parisiens. Et après tout est ouvert. On a vu quand même les Parisiens auteurs d'un bon match contre les Clermontois en demi-finale. Donc là, pour le coup, j'aurais du mal à me prononcer, même si j'ai envie que le Stade Français sauve la saison et du coup rebondisse un peu grâce à ce titre.
Pierre.
C'est une demi-finale en terre britannique, une de plus. Donc je dirais quand même malgré tout 50-50. Mais dans l'hypothèse où le Stade français gagnerait cette finale et donc gagnerait sa place en Coupe d'Europe l'an prochain, restera après à passer le match devant la DNACG parce que jusqu'à preuve du contraire, M. Guazzini et son portefeuille, M. Laporte, ont soi-disant apporter des assurances à la DNACG, moi je veux bien, mais je n'ai aucune information sur l'identité de l'actionnaire dont je n'ai trouvé aucune trace sur Internet. Je veux croire tout ce qu'on nous dit, j'espère que ce n'est pas un cache-car bis, mais en attendant, Je dis que le Stade français, tant que la DNACG n'a pas vu l'argent, n'est pas sauvé pour autant.
Et trois minutes, messieurs, avant de conclure cette émission, trois petites minutes pour revenir brièvement sur l'autre finale de la Coupe d'Europe. Ce sera Northampton face au Leinster. On avait vu deux demi-finales absolument fantastiques, magnifiques, des deux clubs d'ailleurs qualifiés aujourd'hui pour cette finale. Est-ce qu'on peut s'attendre à le paroxysme de cette saison européenne de rugby dans cette finale avec deux équipes qui sont capables de nous offrir de vrais récitals.
On peut le souhaiter.
Après, je pense que le Leinster sait pas faire autre chose que jouer le jeu qu'il joue, c'est-à-dire assez complet, avant-arrière mélangé. En ce qui concerne Northampton, ils peuvent revenir à un rugby un peu plus triste, peut-être, si c'est la solution qu'ils trouvent pour essayer de battre le Leinster. Mais il y a toutes les raisons de croire que ce sera un beau match.
Moi, j'aime cette finale parce que Northampton, c'est pas n'importe qui, ça c'est clair.
Quel match ils avaient fait, c'est ça, à Perpignan.
Un représentant du rugby anglais qui a déjà gagné la Coupe d'Europe, je crois que c'était
en
contre le Stade Toulousain, non ?
Non, contre Munster.
Ah, Munster, exact, oui, exact. Munster. C'était Wasp qui avait gagné le Stade Toulousain. Donc c'est une grosse équipe. Et puis le Leinster, bon, bah, c'est la moitié de l'équipe d'Irlande, même plus maintenant. Non, c'est une belle affiche, c'est sûr.
Une minute,
et,
Philippe Sponlero.
Une belle affiche qui nous rappelle que, contrairement à ce qu'on a dit au début de la saison, le top 14 n'est pas le réservoir des meilleures équipes européennes.
Philippe ?
C'est une très très belle affiche avec deux équipes qui ont beaucoup d'ambition dans le jeu. Voilà, moi je suis content parce qu'on contredit un peu Pierre qui s'attriste souvent de notre nouveau rugby où c'est un rugby de gagne terrain avec le jeu qui est fait par les buteurs, etc. Et d'une part en demi-finale, en quart, en barrage là ce week-end, et d'autre part en Coupe d'Europe avec ces deux équipes, on a vu que pour gagner, pour pouvoir être performant sur la durée, il fallait quand même avoir de l'ambition dans le jeu et envoyer du jeu, et ces deux équipes l'ont montré tout au long de la saison. Et bon, après il n'y a pas de secret, c'est elles qui ont terminé aux deux premières places de la phase régulière, donc elle mérite d'être où elles sont aujourd'hui.
Et tant mieux si elles envoient du jeu pour la finale.
Et on espère qu'elles confirmeront, voilà, ces ambitions de jeu dans cette finale. Très rapidement, 10 secondes.
Moi, je vais juste dire un petit mot pour Narbonne qui est rétrogradé en Fédéral 1 pour des raisons d'argent, et Dax qui, semble-t-il, ne va pas très bien. Voilà, c'est la Pro D2 qui galère.
Et aussi Narbonne après Béziers, Perpignan qui n'a pas fait une aussi bonne saison que d'habitude. Est-ce que le succès de la grande ville de Montpellier n'est pas en train de tuer le rugby dans ces villes qui, jusqu'à la fin du rugby amateur, étaient leaders et qui aujourd'hui sont largués?
Merci beaucoup Pierre Salviette de cette dernière analyse. Le temps pour nous de se quitter. Merci également à Ludovic Niner, rugbyconnection.com, et à Philippe Panduro, consultant RTL Équipe. À très très vite messieurs, la semaine prochaine, rendez-vous sur RTL Équipe Carrément Rugby, 11h30, midi et demi, même lieu, même heure.
RTL Équipe, la radio sport et info.